Salut Valérie.
Salut.
OK, il y a 20 ans, les premiers détenus arrivaient à la prison de Guantanamo. Et tout d'abord, rappelle-nous dans quel contexte la prison a été créée.
Mais tout d'abord, Guantanamo, c'est à Cuba. Donc, les gens déjà qui ont fait le parallèle États-Unis, Cuba, et il y a une entente, c'est assez particulier, mais quand même, on a loué une portion du territoire cubain depuis 1903. Donc, c'est une base navale américaine. Et après le 11 septembre, donc dans le contexte de la guerre au terrorisme, George W. Bush a décidé d'ouvrir une prison. Au début, c'était vraiment des conteneurs qu'on avait convertis en cellules pour des prisonniers, justement, des gens qu'on a arrêtés à l'étranger qui pourraient être des responsables du 11 septembre. Donc, les premiers prisonniers qui sont arrivés sur cette base-là, qui est devenue une prison, c'était le 11 janvier 2002. On est dans un contexte tout autre. Hein. Après, je vous l'ai dit, l'attentat terroriste qui avait choqué le monde entier. Et on avait jusqu'à près de 800 prisonniers à un certain moment. Là, on est autour de 39 prisonniers, dont un des cerveaux derrière l'attentat du 11 septembre, qui d'ailleurs n'a toujours pas été jugé, qui est toujours à Guantanamo. Donc, c'est pas un territoire américain. On est donc à l'abri des lois américaines. On est à l'abri, justement, du respect des droits des Américains. C'est pour ça qu'on a transporté ces prisonniers à cet endroit-là, qui est un peu un no man's land du droit. Et on a fait, à travers les années, un peu ce qu'on voulait avec ces prisonniers-là.
Dont une forme de torture, là, ce qu'on a appelé le waterboarding. Là.
Oui, la simulation de noyade. Mais la liste, là, aujourd'hui, j'ai regardé les différents articles. Il y a plusieurs choses qui sont sorties dans les journaux, dans des livres, parce que c'était vraiment très fermé comme endroit, c'est le cas de le dire. Là, on ne fait rien savoir. Ça a même pris du temps avant qu'il puisse y avoir des avocats qui se rendent sur place. Et même là, on était dans l'espèce de secret le plus total. Et après des années, on a su. Bon, du confinement solitaire, même après avoir certains prisonniers qui ont fait des tentatives de suicide, tu l'as dit, le waterboarding, battu, agression sexuelle. Et ce qu'on avait vu aussi dans des prisons au Moyen-Orient, on utilisait des femmes pour torturer les prisonniers parce qu'il y en a beaucoup qui sont musulmans. Et on mettait des femmes, c'est pas des blagues, c'est vraiment des interprètes qui ont parlé de ça dans différents livres, on les habillait sexy pour interroger les prisonniers, pour les rendre mal à l'aise. Écoute, autour de ça, il y a des attouchements. On avait mis du faux sang menstruel qu'on leur avait lancé sur les prisonniers en refusant, en coupant l'eau dans les cellules pour qu'ils croient finalement qu'il y avait quelque chose d'impur sur eux pour les forcer à parler. Donc, on avait vraiment usé d'à peu près toutes les façons imaginables de torturer donc ces personnes. Il y en a beaucoup qu'on a reliés aux attentats du 11 septembre, mais selon des gens qui ont même travaillé à la prison, qui étaient même pour cette prison-là. Il y en a aussi qui ont dit qu'ils étaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment.
Valérie, moi, je me souviens des histoires qui sont sorties là, peu après, dans les années qui ont suivi, disons. Tu sais, il y a des gens qui ont été vendus par les Afghans après l'invasion des Américains, qui se sont fait dire, parce que les Américains payaient pour des informations.
Exactement.
Il y a des gens qui se sont fait stouler, qui n'avaient rien à voir. Ils ont été embarqués, puis il y en a, pas tous, là, il y en a qui étaient parfaitement innocents qui se sont ramassés à Guantanamo.
Oui, on avait, écoute, tu as tout à fait raison, on donnait de l'argent, on avait même fait des publicités pratiquement en Afghanistan ou au Pakistan en disant si vous dénoncez des gens, on va vous donner un montant d'argent. Alors, il y en a qui se sont fait une espèce de construction de fausses feuilles de route, d'attentats. Il y en a que c'est juste des gens qui étudiaient, par exemple, le Coran, qui était un petit peu plus radicalisé, je vais dire ça comme ça. Donc, on est allé chercher et qui ont été à la prison, qui sont peut-être encore aujourd'hui emprisonnés. Et là, on ne sait pas trop quoi faire avec ces gens-là.
OK, Obama avait promis de fermer Guantanamo. En 8 ans, il ne l'a jamais fait. Pourquoi c'est si compliqué?
Et Obama l'a promis. Biden l'a dit aussi qu'il voulait le faire. C'est pas demain que ça va se passer. Et Barack Obama, ça fait partie de ses plus grands regrets, d'ailleurs, d'avoir jamais réussi à fermer la prison. Je vais t'expliquer là, un peu pourquoi c'est compliqué avec le Congrès, mais juste te dire une anecdote. Quand Barack Obama a été élu, c'était dans ses promesses électorales de fermer Guantanamo, justement en raison des violations des droits de l'homme et tout ça, et de dire, on va les juger, ces gens-là, mais d'une façon correcte. Les prisonniers qui avaient accès à la télé, qui ont vu la soirée électorale, scandaient et chantaient en se disant, Barack Obama est au pouvoir, on va sortir d'ici et être jugé ailleurs. Donc, c'était une espèce de célébration chez les prisonniers que Barack Obama soit là. Finalement, il n'a jamais réussi à le faire. Donald Trump, après, lui avait dit au contraire. Moi, il dit, je vais aller chercher des « bad dudes », c'est difficile à traduire, là, des mauvais gars, des...
Des « bad boys ».
Aussi, ça. Il dit de l'État islamique, entre autres, il dit, je vais ramener le waterboarding, je vais même ramener pire que ça. Donc, c'est pas avec lui non plus qu'on allait le fermer. Et Biden, encore des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que le Congrès, dans le nouveau budget de la Défense, dit vous n'avez pas le droit d'utiliser des fonds publics pour prendre des prisonniers de là-bas et les envoyer à l'étranger. Vous n'avez pas le droit de prendre des fonds publics non plus pour les faire, les juger ou les emprisonner aux États-Unis. Alors, c'est extrêmement compliqué. Et t'imagines les garanties de sécurité qu'on doit avoir si tu déplaces un terroriste et que tu l'envoies dans un autre pays. Déjà, on le sait, la Somalie, la Syrie, le Yémen, c'est interdit de transférer des prisonniers. Mais quand même, il y a des négociations qui se font. Mais la liste de garanties, là, quand tu as des gens reliés au terrorisme, c'est assez grand.
Mais il y a quand même des prisonniers qui ont été libérés, qui ont été renvoyés dans leur pays d'origine, comme le Canadien Omer Khadr.
Oui, dans la controverse, parce que le gouvernement canadien a refusé maintes et maintes fois justement de le rapatrier. Bon, il y a eu des ententes avec lui, mais surtout quand c'est des pays européens. Il y en a qui avaient de la double citoyenneté. Par exemple, ils venaient du Yémen ou de l'Arabie saoudite, mais ils avaient aussi une citoyenneté européenne. Donc, c'était plus facile de s'entendre, d'avoir les coûts, d'avoir des garanties. Mais le problème, c'est quand tu as quelqu'un qui vient justement d'un pays où il y a du terrorisme, où on finance parfois le terrorisme, mais là, tu fais quoi avec cette personne-là? Tu l'envoies où? Et aux États-Unis, on en veut pas. Et écoute, dans les sondages, là, il y en a eu des derniers en 2016, la majorité de la population américaine ne veut pas qu'on ferme Guantanamo. Alors même là, au niveau politique, c'est risqué de fermer Guantanamo parce que la cicatrice du 11 septembre est encore là. Et tu le sais, tu vois les États-Unis aller comme moi depuis des années. Le débat de la peine de mort, tous ces débats liés à ces questions éthiques-là sont encore centrales. C'est pas simple de fermer Guantanamo non plus.
OK. Une question politique d'importance aux États-Unis, Valérie, est aussi judiciaire. C'est la responsabilité de ceux qui ont incité à la tentative de putsch le 6 janvier 2021. Et hier à Washington, il y avait une audience qui visait à déterminer si l'ex-président Trump peut être tenu civilement responsable de l'attaque.
Et c'est super intéressant comme dossier parce que il y a plusieurs choses là-dedans. Bon, c'est lié à l'attaque du 6 janvier. Donald Trump qui avait donné un discours avant à des manifestants qui leur avaient dit, bon, il faut reprendre un peu le contrôle du pays par la force. On peut pas être dans la faiblesse. Bref, les gens se rappellent des paroles qui ont été dites. Et il y a des poursuites aux civils, dont des policiers qui étaient au Capitole, qui poursuivent l'ancien président, qui poursuivent son ancien avocat Rudy Giuliani, qui poursuivent aussi un élu de l'Alabama qui était là puis qui parlait justement des métaphores de combat et tout ça. On veut savoir s'ils peuvent être liés aux civils. Il y a des questions intéressantes qui ont été soulevées dans la première audience. C'est Donald Trump était là comme qui? Comme président ou comme candidat qui avait perdu l'élection? Donc, est-ce que l'immunité est totale? Est-ce qu'un président peut dire n'importe quoi et jamais avoir de conséquences? Je ne parle pas de conséquences criminelles, je le précise. On parle de conséquences civiles. C'est la question qui est centrale, mais ça ne sera pas réglé non plus demain matin.
Moi, ce que j'ai trouvé fascinant là, dans la pause des fêtes, c'est de voir comment, Valérie, des gens, des républicains, dont le fils de Donald Trump, Donald Jr., là, le 6 janvier 2021, comment ils avaient réagi. Leurs textos sont sortis, ont été publiés, des gens qui travaillaient chez Fox, qui imploraient la Maison-Blanche de dire à Trump, il faut qu'il dise à ces gens-là de sortir du Capitole, il est en train de scraper son héritage, c'est épouvantable ce qui se passe publiquement, maintenant. Écoute, ils disent tout à fait le contraire.
Et il disait ça, ce qu'il disait finalement, c'est ça va trop loin, il faut faire quelque chose, il faut arrêter ça. Et c'est intéressant que tu dises ça et que tu le mentionnes parce que justement dans le procès, c'est ressorti parce que c'est difficile de prouver qu'il avait l'intention de dire aux gens que c'est de sa faute finalement que les gens ont attaqué le Capitole. Mais les avocats ont dit, OK, peut-être qu'il n'aura pas dit directement aller défoncer les portes, mais quand il était au courant, et on le voit avec ces textos-là de ses enfants, il a choisi de rien faire. Alors le fait de ne rien faire pendant 2 heures, c'est d'être un peu complice à ce qui s'est passé.
Pas juste ça, d'aussi de faire... il est allé sur une tribune, il a harangué, il a encouragé ces gens-là.
Voilà. Oui, le prouver que les mots, parce que là, ils se défendent en disant c'est des métaphores, c'était pas concret. Et un peu l'ironie de la chose, c'est justement une loi qui date, écoute, on s'appuie sur une loi de 1871, si je me trompe pas, qui était liée au Ku Klux Klan et qui dit finalement, que tu peux poursuivre des gens civils quand on empêche les élus de faire leur travail. Et ce qui s'est passé le 6 janvier, c'était quoi, je le rappelle? On voulait empêcher de certifier la victoire de Joe Biden. Donc, on va voir, mais bon, le juge n'était pas clair de quel côté il va pencher. Il y avait des bons arguments des deux. Il semblait dire qu'il y avait des bons arguments des deux côtés. On va voir. Mais ça pourrait être une des peut-être seules conséquences que pourrait avoir l'ancien président Trump. Bien, ça serait une poursuite au civil. On peut imaginer de plusieurs centaines de milliers de dollars et de millions même, je dirais, de dollars.
Merci beaucoup, Valérie. On va se retrouver plus tard cette semaine.
Avec plaisir.
OK, avant de passer à la pause, juste souligner qu'il y a Radio-Canada qui rapporte qu'au moins 12 passagers qui ont fait la fête sur le fameux vol de Sunwing en direction de Cancun le 30 décembre font l'objet d'une enquête de la part de l'Agence de la santé publique du Canada là, pour avoir enfreint notamment la loi sur la quarantaine. Et il y a trois de ces passagers-là qui ont vu, semble-t-il, leur dossier confié au directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec pour un examen plus approfondi. Bonne chance à tous, 18h15.